Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021.
Jésus-Christ t'aime. Amen. Et maintenant, il est vivant chaque jour à tes côtés pour t'éclairer, te fortifier, te libérer. Nous sommes tous envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle aux enfants, aux tout-petits, aux primaires, aux collégiens, aux lycéens. Mais il faut bien avouer que parfois nous nous sentons un peu démunis pour les rejoindre. Qui sont-ils, ces enfants, ces jeunes, à qui nous nous adressons? Pour mieux les rejoindre, il nous faut les écouter, les accueillir, les connaître, bref, les aimer. Et le nouveau directoire pour la catéchèse, ce livre-là, insiste sur cet aspect. Au numéro 224, l'Évangile n'est pas destiné à l'homme abstrait, mais à chaque homme, réel, concret, historique, ancré dans une situation particulière et marqué par des dynamiques psychologiques, sociales, culturelles et religieuses. L'Évangile n'est pas destiné à l'homme abstrait, mais à chaque homme. Alors pour mieux annoncer ce kérigme, nous avons besoin d'être éclairés sur le contexte de notre monde, sur ses défis, sur les lieux à ne pas rater. Pour répondre à ce besoin, il nous fallait quelqu'un au regard large. Alors nous avons fait appel à lui parce que sa formation est pluridisciplinaire. Son truc, c'est l'anthropologie théologique, mais il y a aussi la finance, du droit, de la philosophie. Il est prêtre, il est membre de la communauté des Béatitudes. Nous le remercions d'avoir répondu à notre invitation et nous accueillons le frère Tanguy-Marie Pouliquen.
C'est bien en présence de Jésus-Christ, nous avons touché le Verbe, nous le touchons chaque jour, nous le touchons maintenant, car le Christ nous a promis une vie en surabondance, Jean 10:10, voyez. Et là, je vous ai affiché pour commencer le programme du bonheur du pape François. Alors, comme on passe à la radio, on va le lire. Ne pleure pas pour ce que tu as perdu, lutte pour ce que tu as. Ne pleure pas pour celui qui est mort, lutte pour celui qui est vivant. Ne pleure pas sur qui t'a abandonné, lutte pour celui qui est avec toi. Ne pleure pas sur celui qui te hait, lutte pour celui qui t'aime. Ne pleure pas sur ton passé, lutte pour ton présent. Ne pleure pas sur ta souffrance, lutte pour ton bonheur. Avec toutes les choses qui nous arrivent, nous apprenons que tout problème a sa solution. Il faut simplement aller de l'avant. Aller de l'avant. Sortir. Aller aux périphéries. Vous savez, quand le pape a été élu une semaine avant, il y a ce qu'on appelle les congrégations générales. Et il a fait un petit discours. Normalement, on ne devrait pas le savoir. Mais je vais vous le dire et vous ne le répétez pas. Hein ? C'est un discours maintenant qui est, avec l'autorisation du pape finalement, qui est sur Internet. Et c'est le discours programme du pape. Et le pape, en 3 minutes et demie, nous dit les idées suivantes. Nous avons parlé de l'évangélisation, tiens, entre cardinaux. De quoi a besoin l'Église ? L'Église a besoin de sortir d'elle-même, d'être missionnaire. Elle a besoin de ne pas être autoréférée, de se replier sur elle-même. elle a besoin d'aller aux périphéries existentielles, psychologiques, sociales, toutes les périphéries, tous les gens qui sont en dehors de l'expérience vivante de Dieu. Rejoindre la personne là où elle est. L'Église a besoin de sortir du narcissisme théologique, de faire de la théologie hors sol, qui ne rejoint pas la vie des personnes. L'Église doit mettre de côté la mondanité spirituelle, où on fait de la mission, on a un service, on prêche, on enseigne pour sa propre gloire. Non, l'Église doit refléter le mystère de la lune. Idée reprise à Henri de Lubac. La lune éclaire la nuit des hommes quand la lune est éclairée par le soleil, le Christ. Le sacrement de l'Église est habité par le sacrement fondamental qui est la présence du Christ, qui se communique de manière réelle dans son esprit. Alors, l'Apocalypse nous dit que Jésus frappe à l'extérieur pour entrer. Et le pape réinterprète cette phrase de l'Apocalypse en disant « Le Christ n'est pas seulement à l'extérieur, mais il est à l'intérieur de nous. Et il frappe dans notre cœur, dans notre vie pour sortir. Sortir en nous, pour naître en nous, afin de se répandre autour de nous. » Alors, qui doit être le prochain pape? Voilà la question ultime à laquelle il répond. Ce doit être celui qui, par la vénération et l'adoration de Jésus-Christ, doit redonner à l'Église le goût de la joie de l'évangélisation. C'est notre cœur de métier aujourd'hui. Retrouver cette joie de la nouvelle évangélisation en quittant le passé, en quittant les faux problèmes, en accueillant, voyez, en accueillant la vie réelle. La vie réelle, c'est que le Christ t'aime, que le Christ t'a sauvé, te sauve, que le Christ est vivant aujourd'hui et qu'il nous donne son esprit. Le kérigme du pape de Christus vivit. Voilà. Je suis aimé. Je suis infiniment aimé. Le Verbe de Dieu, nous l'avons touché. Il nous touche aujourd'hui. Oui. Moi, j'aime bien un peu stigmatiser l'impact performatif de la vie chrétienne sur la vie humaine. Nous prions, j'appelle ça le facteur 4. Nous prions une heure, nous gagnons 4 heures. Nous prions 2 heures, nous gagnons 8 heures. Nous prions 4 heures, 16 heures. Plus nous prions, plus nous sommes en présence du Verbe éternel qui me touche en Jésus-Christ, aujourd'hui, ressuscité, vivant par son Esprit, plus je gagne du temps, plus je suis habité par une fécondité qui est celle de Dieu en moi. L'Esprit Saint me donne le Christ vivant. C'est bien le Christ vivant que nous voulons accueillir, pas simplement le Christ culturel, le Christ intellectuel, le Christ qui nous donne une Église bien organisée, avec ses soucis. Non, le Christ nous donne le corps du Christ, nous donne cette présence diffuse, réelle, actuelle, performative, féconde, maintenant, toujours et partout, gratuitement. Le Christ, pour ça, peut nous dire « Viens, suis-moi, demeure en moi. » Car qui est le Christ? Le Christ, c'est celui qui dit « Je suis » et qui nous aide à dire, nous, « Je suis. » « Je suis. » Tiens. Là, on est bien au contact de notre contexte culturel mondial, aujourd'hui, qu'on synthétise dans l'idée de post-modernité. La post-modernité, c'est l'envie d'un monde où la liberté individuelle s'érige en affirmation de je, de singularité. Aujourd'hui, les gens veulent être des êtres uniques, singuliers. Et c'est formidable de vouloir être unique. Parce que quand on est unique, on peut s'unir vraiment aux autres et être dans une commune unité, dans une communauté, dans une communion. Mais le problème de notre postmodernité, c'est qu'elle ne croit plus en la raison. La capacité pour la raison, illuminée par la foi, de lire le réel. Et alors, c'est le jeu qui s'érige en centre, autour d'une vie affective où les émotions ont valeur de vérité. Alors que notre vérité à nous, qui rend vraiment libre, c'est le Christ. Le jeu de chaque individu aujourd'hui, dans un monde libéral, qui bouge, qui oblige, qui emmène les gens à être consommés individuellement. Vous voyez, la stratégie du monde libéral, c'est une stratégie de vente pour que nous achetions encore plus. Et ben, la tactique, elle est simple, il faut individualiser les comportements, isoler les acheteurs, les consommateurs, et aujourd'hui, le lieu idoine, c'est le commerce en ligne, c'est les écrans. 90% du temps, les gens sont seuls devant les écrans. On y reviendra. Mais il y a toujours un signe des temps. La postmodernité nous dit que le jeu de chacun est essentiel. Nous sommes comme invités au respect. Le pape François n'hésite pas à dire « Quand je suis devant une personne, je me prosterne en esprit devant lui. » Pas « Je le vénère ou l'adore », mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de précieux. Chacun est précieux, hyper précieux. Le plus pauvre est précieux. Et ce qui est précieux, on en prend profondément soin. Alors quand on entend « Je veux être moi-même », le pape dit « Très intéressant, il nous dit aujourd'hui, il faut accompagner les processus de croissance. Voilà. Faire entrer les personnes dans une dynamique de croissance de vie, de personnalisation, de personnification. Chacun est unique. Jean-Paul II, en son temps, disait que la première expérience de la vie, c'est la solitude originelle. Je fais l'expérience que je suis singulier, que je suis seul en face de moi-même, c'est-à-dire que je suis unique. Expérience riche si elle se vit sous le regard de Dieu qui me dit « Je t'ai créé unique » et non pas l'expérience de l'unicité, isolement, éloignement. En creux, le fait d'être pleinement soi-même unique nous aide à pouvoir entrer en relation d'unité, deuxième expérience originelle. Et la troisième, le terme est un peu osé, c'est la nudité originelle, c'est-à-dire la capacité d'être proche de l'autre en confiance. Être unique pour être avec, proche de l'autre. Voilà fondamentalement l'appel en creux qu'il y a au cœur même de notre existence. Alors comment, quel va être le levier de tout ça? Alors le levier de tout ça, ben, c'est notre Seigneur Jésus-Christ vivant aujourd'hui. Et le Concile Vatican II, en Gaudium et Spes, nous dit « Le Christ révèle ». La plénitude de l'homme à lui-même. Plus nous rapprochons les cœurs de l'événement de Jésus-Christ, plus la personne devient elle-même. Sous-entendu, à nous de présenter le Christ comme ce qu'il y a de plus intéressant, c'est-à-dire là où les gens vont trouver leur plus grand intérêt. Crédibilité de la foi, en fin de compte, la crédibilité de la foi, aujourd'hui, c'est la croissance intégrale des personnes. Le Christ accomplit l'existence humaine. Je suis, les sept « je suis » de Jésus qui anticipe les sept paroles du Christ en croix. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte, vous savez que les brebis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le cep, vous êtes les serments. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et il m'en manque un. Voilà. Je suis. Jésus est la réponse à notre époque. Qui veut être je suis. Je. Qui peut être confiné comme une société adolescente, qui se cherche dans l'affirmation d'elle-même, ou dans un « je suis », comme le dit le grand philosophe Ulrich, à la base de la pensée de Hans Urs von Balthasar, « je suis, je, tu, nous ». Le « je » se développe réellement dans une relation avec un « tu », afin qu'ensemble, on construise un « nous ». Je, tu, nous. Nous, tu, je. Il y a des portes d'entrée dans tous les sens. Mais à la fin, vous voyez, je, tu, nous reflète l'image de Dieu en nous, qui est une image dialogale, trinitaire, faite pour le don de soi dans un projet commun. Alors, notre monde aujourd'hui, il est un peu agité. Les gens sont, on pourrait dire, un peu embrouillés dans leur tête, vous voyez. Il y a beaucoup d'agitation. Alors, essayons de simplifier ce que vivent les gens. On va prendre l'anthropologie de saint Augustin. En 5 minutes, on résume l'anthropologie de saint Augustin. Saint Augustin nous dit, les gens ont 5 sens. Très bien. 5 sens, on les connaît. Ils sont tournés à l'extérieur. Tiens, aujourd'hui, vous êtes devant moi, je vous vois. Mais je suis capable de retourner ces 5 sens à l'intérieur. J'ai capable de me voir, de me représenter, de me sentir, de me goûter, de m'entendre. Je suis capable de tourner les sens à l'intérieur. Faire déjà l'expérience d'une intériorité qui me permet d'habiter ce corps qui est souvent parfois mis de côté à la place d'un cerveau disponible à l'agitation des images, des écrans. Mes sens, je peux les tourner à l'intérieur. Et à l'intérieur de moi, déjà habitant un peu plus en moi, je rencontre une zone d'agitation qui a 4 couches. La zone d'agitation de mon imagination, toujours agitée. La zone d'agitation de mon affectivité, de mes sentiments. Voilà, je ressens. La zone de l'agitation de mes souvenirs, qui de passé se projette en avenir. Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et en plus, la zone de la sensualité, de la sexualité, de la pulsion, de l'instinct, qui est toujours là. Toujours là. Et donc, tout ça, bien agité, il y a la tentation de mettre, j'irais, un couvercle sous la casserole et de revenir à l'extérieur et de se faire un film, de s'agiter dans l'action, de fuir dans les écrans, de partir en vrille et de surfer sur les émotions, etc. etc. Alors que nous pouvons traverser cette zone agitée, en nous appuyant avec confiance sur 4 zones, 3 zones stables en nous, qui sont notre intelligence, Ce qui est, est. Ce qui est vrai, est vrai. Ce qui n'est pas vrai, n'est pas vrai. Ce qui est réel, est réel. Comme le dit le pape François, le réel est supérieur à l'idée. Le réel. Le réel du réel, c'est que Dieu est. Et que nous sommes absolument reliés à lui. Absolument. La deuxième faculté stable, c'est la volonté. On peut toujours vouloir un petit peu. Comme le dit Raymond Devos, hein, trois fois rien, c'est déjà quelque chose. Voilà. On peut toujours vouloir quelque chose. On ne peut pas ne rien vouloir. Tout l'enseignement de Maurice Blondel est là. Il y a une vélée, il y a un vouloir en moi. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux concrètement ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? On peut toujours avancer. Un petit pas, toujours un petit pas. On peut toujours aller de l'avant. Toujours. Évidemment, on peut se mettre la pression de vouloir aller faire des grands pas. Bon, on peut avoir l'espérance de Thérèse de Lisieux, qu'on célèbre aujourd'hui, c'est magnifique. Hein ? Quand Jésus était né dans son cœur, en un instant, Jésus était né dans son cœur, et elle a dit, j'ai commencé à avancer à pas de géant. Avancer à pas de géant. Donc on y reviendra, Jésus dans le cœur. Troisième faculté stable, c'est la mémoire de l'être. Mémoire de l'être, je suis digne. Je suis un être digne. Tu as fait des bêtises, tu es pécheur, mais ta dignité est plus grande que ton péché. Approfondissons. Qu'est-ce qui va nourrir l'intelligence ? La foi. Qu'est-ce qui va nourrir la volonté ? La charité. Qu'est-ce qui va nourrir la mémoire de l'être ? L'espérance. Qu'est-ce qui va nourrir analogiquement la foi ? Le Christ. Qu'est-ce qui va nourrir analogiquement la charité ? L'Esprit-Saint. Qu'est-ce qui va nourrir analogiquement le Père ? Non, l'espérance, le Père. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à l'image de la Trinité. Nous sommes absolument reliés à Dieu. Dieu est en nous, toujours en nous, partout, toujours. Et c'est gratuit de pouvoir vivre avec lui. Espérance fondamentale. Dieu est en nous. Nous l'avons touché, mais il est là. Il est présent. Il est vivant. Il nous dit, deviens toi-même. Deviens toi-même. Je t'ai créé unique pour que tu dises, oui, je suis. Mais surtout, je t'aime. Je veux t'aimer. Le je mêlé à cette profondeur de l'être va être transformé en processus de croissance. Les gens veulent aujourd'hui du plus. Pape François nous dit, il nous faut réinvestir la notion de progrès. Le progrès aujourd'hui a été récupéré par le monde des sciences et par le progrès de la satisfaction, pour dire, matérielle. Des personnes. Il nous faut réinvestir la notion de progrès. Parce que nous voulons toujours plus. Semper maior. Toujours plus. C'est valable, bien sûr, pour Dieu, qui est toujours plus grand que nous. Mais de notre désir, nous voulons toujours plus. Donc nous pouvons investir, scruter, dans les attentes des plus jeunes, de nous-mêmes, des moins jeunes. Ce toujours plus. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux être libre ? Ben oui, je veux être libre, dit le monsieur sur sa moto en tenue de motard. Bon, mais deuxième question, tu crois à la vérité ? Ben, qu'est-ce que c'est que ton truc là ? C'est fini la vérité, c'est digne de l'Ancien Régime. Voilà. Chacun son truc. Troisième question, est-ce que tu veux être vraiment libre ? Oh, curé, tu m'embêtes avec tes questions, hein ? Je t'ai déjà répondu. Petite relecture. Tu sais, mon ami, je suis content de discuter avec toi, mais tu viens de te contredire. Quoi ? Moi ? Je me suis contredit ? Ben oui, tu me dis que tu veux être libre, vraiment libre, qu'il n'y a pas de vérité, mais comment être vraiment libre sans puiser à une vérité ? Sans puiser à une source. La vérité, c'est une notion qui ne passe pas aujourd'hui. Par contre, la source, l'alimentation, l'envie, ce qui donne de l'énergie, ce qui pousse à vouloir vraiment toujours plus et à l'obtenir, nouveau langage d'une vérité, cette fois-ci vivante, et en Jésus-Christ, nous avons tout. Il est la source. Il est la source qui s'alimente à notre désir, toujours et partout, pour se jeter de ruisseaux en fleurs, en rivières, en fleuves, et aller à l'océan de l'amour de Dieu. Jésus n'est pas une idée régulatrice de la raison. Il n'est pas une idée culturelle. Le catéchisme, c'est l'actualisation de la présence de Jésus vivant en chacun. Et après, on donne l'intelligence de la foi. Conduire les gens donc à cette idée-là, et comment leur donner envie ? Comment leur donner envie ? Voilà, envie. Car Dieu agit. Dieu agit profondément. Une petite histoire. Dernièrement, à la rue du Bac, il y a un monsieur agnostique qui rentre. Qui rentre et, comme ça, il assiste à la messe. Et au moment de l'élévation de l'hostie, il voit dans l'hostie le visage de Jésus. Il frémit. À la fin de la messe, il fonce à la sacristie. Et il dit au curé, montre-moi tes hosties. Le curé sent qu'il y a un enjeu pastoral, il obtempère. Il montre les hosties. C'est vraiment l'hostie avec laquelle tu as célébré la messe. Tu sais, quand tu as levé l'hostie, j'ai vu le visage de Jésus. Et à ce moment-là, le prêtre fond en larmes. Et il se retourne vers le prêtre et il lui dit, « Mais pourquoi tu pleures ? Car moi, quand j'ai levé l'hostie, j'ai douté. Tu m'as redonné la foi. Jésus s'est révélé à toi pour qu'il se révèle à moi. » À Lourdes, un monsieur, la semaine dernière, me raconte l'histoire suivante. Je me promenais derrière les lieux de commerce, il y avait un pauvre par terre, Et ce pauvre par terre, il avait un beau visage. Alors je m'approche de lui et je tenais à la main un chapelet. Et le pauvre, il me regarde, il me dit « Merci pour la pièce, mais tu vois ?» Non, il avait la petite bouteille de Lourdes avec la Vierge Marie qui est pleine d'eau. Et le pauvre dit à ce monsieur qui a donné la pièce « Tu sais, ça, c'est ma mère. » Il fait un pas en avant, il se retourne, plus de pauvre. Lui, il a vécu ça comme un signe de Dieu, que Jésus était présent. Signe, bien sûr, comme le disait moi personnellement, j'ai vécu un miracle à Lourdes, j'ai été renversé par une voiture quand j'avais 25 ans, j'avais la cheville bloquée, et puis j'ai eu mes invalidés d'assurance 70 000 francs à l'époque, c'est pas mal. Hein, et je vais à Lourdes pour la première fois, comme un Parisien vient à Lourdes pour la première fois. Moi, je suis au Bisson, donc à Lourdes, on va à la piscine. Voilà. Et avant la piscine, on me dit, fais une petite prière, fais une petite demande. Et je dis à la Vierge, parce que je ne pouvais plus me mettre à genoux pour prier, parce que ma cheville était bloquée. Et je dis à la Vierge, ben, tu me guéris de ma cheville, je te donne tout mon argent. Je rentre, je sors, guéri. Voilà. Quelques années après, je vais voir le médecin légiste de Lourdes, le père Tellier, monsieur Tellier, et je lui raconte mon histoire. Il me sourit. Il me dit, ça, à Lourdes, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, Jésus agit. Ayons foi que Jésus agit. La vie chrétienne n'est pas un musée. C'est une table d'opération. Et Jésus, c'est le chirurgien. Et nous sommes les assistants du chirurgien. Et nous savons que l'opération va marcher. Elle marche toujours avec Jésus. Mettons-nous sous le lampadaire, pour que notre vie soit illuminée. Ouvrons la porte de la bergerie. La porte de la bergerie. Ouais. Il est la porte. N'essayons pas d'ouvrir d'autres portes. Elles seront fermées. Ouvrons la porte. Cherchons le Jésus. Faisons-le faire naître en nous. Transformons nos cercueils intérieurs en berceaux. C'est le même bois. Transformons nos cercueils intérieurs en berceaux. Transformons nos blessures en chemin de vie. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, vous savez, au moment du doctorat de Thérèse, il y a eu deux courants. Il y en a qui ont dit, ben voilà, magnifique son enseignement. Il y a un autre courant, plus psychologisant, qui dit, mais regardez, Thérèse, c'est une petite fille très blessée. Mais comment donner en exemple une petite fille très, très blessée? Et le pape Jean-Paul II a dit, notre époque moderne a besoin d'un exemple où quelqu'un de blessé en Jésus a renversé sa blessure. En Jésus, Thérèse a renversé sa blessure. Elle qui souffrait, entre guillemets, d'une névrose d'abandon, abandonnée par sa mère à la naissance, abandonnée par sa nourrice, Rose, qui fait pleuvoir une pluie de roses sur la terre, le psychiatre aime bien ça. Après, sa mère meurt, abandonnée par sa mère, abandonnée par sa première, seconde mère, Marie, et après par sa seconde mère, Pauline. Elle a souffert de l'abandon. Elle a renversé son sentiment profond d'abandon en s'abandonnant. Elle a traversé sa blessure en Jésus-Christ. Elle a renversé. Elle a renversé. Elle n'a pas choisi de douter parce qu'elle était blessée, ce qui conduit à l'endurcissement et à l'isolement. Non, au cœur même de cette blessure, elle s'est abandonnée à la miséricorde. Elle s'est abandonnée à l'amour qui est toujours plus grand que notre blessure d'amour. L'amour de Dieu vivant maintenant est toujours plus grand que notre blessure d'amour. Car nous sommes tous blessés d'amour. N'arrêtez pas de prier Jésus, dit-elle. La confiance en lui fait des miracles. Le miracle, c'est la vie ordinaire du chrétien. Car il vit comme un ressuscité. Facile à dire, d'accord. Mais le pape François nous invite à entrer dans un processus de vie. Un processus de personnalisation. Alors, on va reprendre tout ça de manière synthétique. Vous prenez sur votre papier l'antidote, donc la page 2. Voilà. Et après, on reviendra aux écrans, qui sont l'inverse de... Voilà. Alors, ce petit schéma a la prétention de synthétiser toute la pensée de Jean-Paul II. La pensée de Jean-Paul II, avec le pape François, elle devient dynamique. Il ne s'agit pas de penser, il s'agit maintenant d'agir. Le christianisme est un christianisme social, il faut agir pour l'autre. Mais il faut être chrétien. Et être chrétien, c'est être un vivant. Un vivant. Vivre de la vie, du vivant, de celui qui est vivant contre toute mort. Jésus est vivant. Pas simplement le verbe m'a touché, guili guili, non. Je demeure en lui, en celui qui est le ressuscité et qui vient transfigurer tout ce qu'il y a de plus ou moins abîmé en moi en blessure de vie vitalisant. Alors, au cœur même, ça c'est une anthropologie chrétienne, je dirais dynamique. D'abord, faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une conscience, qu'ils ont une petite voix intérieure. D'où l'enjeu pour les plus jeunes du silence, d'écouter. Qu'est-ce que te dit ta petite voix ? Il faut trouver les mots. Qu'est-ce que ta petite voix te dit ? Qu'est-ce qui se dit en toi ? Alors, il y a la dimension, c'est vrai, la conscience psychologique, mais il y a la conscience, je dirais, éthique, la conscience des profondeurs. L'Église la qualifie comme ce sanctuaire intérieur. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une Église ? C'est la présence réelle dans l'Église. Ce sanctuaire intérieur qui protège la réalité de la présence de Dieu. Dieu est en toi. Ça devient intéressant. Je suis riche. Les gens veulent être riches. Très bien, tu veux être riche. Moi, je peux te faire riche à l'infini. Riche à l'infini. Ça m'intéresse. Comment ? Regarde. Le Père du ciel est en toi. Il te donne sa carte bleue. Sympa. Sympa. Voilà. Donc, je suis, vous voyez, au cœur de ma conscience, de mon moi, de mon jeu le plus profond. Quelque chose me parle, m'habite. Et c'est là, à partir de ce lieu intérieur, que peut s'opérer le process de la croissance. Toujours et partout. Un petit peu. Sous-entendu, on revient à l'idée de départ, on peut toujours aller de l'avant. On peut toujours aller de l'avant. Un petit pas. Pas forcément tous les pas, mais un petit pas, aujourd'hui. Hein ? D'abord, de reconnaître que ma vie m'est donnée. Ma vie m'est donnée. Je n'ai pas choisi d'avoir une tête, deux bras, je n'ai pas choisi de vivre, je n'ai pas choisi d'être français, je n'ai pas choisi d'être à Toulouse. Cette Église m'est donnée par le travail de plusieurs générations avant moi. Je suis en face d'un don qui me colle à la peau. La vie me colle à la peau. Me colle à la peau. Je suis donné à moi-même, dès la première cellule de mon existence. Car toute la potentialité de la vie, elle est dans la première cellule, au plan biologique. Après, il y a l'épigénétique. Voilà. Mais tout est donné au départ, à l'instant. Même chose pour l'environnement, notre belle terre bleue qui traverse des soubresauts de projection dans l'avenir, oui, il y aura des problèmes, certainement. Mais voilà, tout ça, ça nous est donné. Respect pour ce qui m'est donné. Respect pour moi, respect pour mes parents, respect pour Dieu, respect pour la création. Respect, merci, gratitude. Gratitude, action de grâce. Merci. Deuxième étape, ce qui m'est donné pour moi. Ah oui, ça c'est mes données pour moi. En tout cas, ça m'est donné à moi. Le Seigneur m'a donné. Il nous donne le salut, il nous donne la vie. Il m'a donné la vie. Et donc, il vient ce don de la vie, qui est naturel, il est aussi spirituel, mais déjà naturellement, on peut comprendre que je suis un être unique. Légitimement, j'ai le droit de m'affirmer. En anglais, c'est l'assertivité, to assert, l'affirmation. Et l'assertivité, c'est ce process managérial qui fait que dans les collectivités entrepreneuriales, non, je ne manifesterai pas de rapport de force, de violence, de domination. Je m'affirmerai dans le dialogue. J'ai le droit de m'opposer, mais dans un dialogue paisible. Donc oui, j'ai légitimement le droit que mes besoins soient satisfaits. Et comme le dit le pape Jean-Paul II, dans son si beau livre, un peu compliqué, mais si beau quand même, Personne et acte, voilà, nous devons nous auto-posséder pour nous auto-déterminer. Sous-entendu, aider la personne à dire « je décide, je veux ». La personne grandit quand elle est à la genèse d'elle-même. La personne grandit lorsqu'elle a la genèse d'elle-même. Lorsqu'elle fait le bien sans que ça traverse sa liberté et son jeu, ce bien ne lui fait pas forcément du bien. Par contre, quand le bien traverse son désir et son jeu, le bien traversant la personne, faire le bien fait du bien parce qu'elle bonifie la personne. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Tiens, l'éthique devient intéressante. Parce que l'éthique, c'est le chemin pour grandir, pour vivre, pour être libéré, et non pas la morale moralisante. Hein ? La morale moralisante. 5 minutes. Troisième étape, il nous faut nous donner. La personne se trouve elle-même dans le don désintéressé d'elle-même. Qui a dit ça ? Le Concile Vatican II. Gaudium et Spes, 24.3. La personne se trouve elle-même. Tiens, la personne doit se trouver elle-même dans le don désintéressé d'elle-même. Voilà. Dans le don gratuit. Tiens, tiens, tiens. Et après, il faut vérifier quand même que ce que je donne, ben, l'autre le reçoit. Mesdames, pensez peut-être à tous les cadeaux qui vous ont déçus de votre mari. Hein ? Parfois, on est un peu déçus. Pourtant, il y a mis tout son cœur, mais on est déçu. Donc, il faut vérifier quand même que ce que je donne à l'autre, l'autre est content. Voilà. Et c'est ça qui crée l'unité, d'ailleurs dans les deux sens. Hein. Ce qui crée l'unité, ce qui rassemble, c'est lorsque le don de nous-mêmes est reçu par l'autre. D'où la légitimité d'évaluer, du feedback, de se dire, tiens, ça va pour toi. Hein. Alors, cette dynamique qui est naturelle, s'accomplit de manière surnaturelle. Le Christ est le don de la vie fondamentale. Je reçois le don, voyez, ce geste-là, je reçois, j'intègre, je donne, je partage. Je reçois, j'intègre, je donne, je rassemble, je partage. Jésus est le don de la vie fondamentale, car c'est en lui que tout a été créé, pour que tout trouve en lui son accomplissement, son achèvement. L'attraction du Christ élargit l'humain. L'attraction du Christ élargit l'humain. On reste dans une finitude, mais on est élargi, on est unifié. Et quand on est unifié, on est unifiant. Alors, on revient au schéma d'avant. Les écrans, danger. Comme le dit Jean d'Ormesson, les écrans, c'est ce qui fait écran à l'existence. Les écrans ont aujourd'hui la préséance sur l'existence. Un jeune de 12 ans va passer 2,5 fois de plus de temps devant son écran que devant ses parents, ses amis et ses éducateurs. Un enfant de 3 ans aujourd'hui passe 3 heures en moyenne devant un écran. Ça a des effets biologiques. Neurologique. Limitons le temps des écrans et remplissons-le par une forme d'attraction. Vous voyez, les écrans, ayons du cran, quittons les écrans. Voilà, bon, c'est facile. Hein. L'écran déstructure la personne. Bien sûr, ça peut être un bon moyen. Il y a un écran. Mais en tout cas, de ne pas être seul devant l'écran. D'être avec d'autres, pour un projet. Oui, l'écran peut être un bon support. Le pape François dit que notre société est caractérisée par un nouveau paradigme culturel, c'est le paradigme technocratique. Aujourd'hui, la culture technologique a pris la première place dans l'intersubjectivité, dans les échanges. C'est un signe d'alerte. Grave. Qu'est-ce qui est au centre ? Dieu ou les écrans ? Bon, la première fois que j'ai vu ce schéma, où on voit un robot cloué à une croix, ça m'a fait réveiller. Et après, j'ai lu le pape François sur la technologie, ce qui m'a motivé de travailler ces questions. La technologie remplace la religion. Voilà. Un Français passe 9 heures par jour devant, en moyenne, devant son écran. 9 heures par jour, travail compris. La moitié du temps éveillé, seul, principalement, devant un écran. Moitié du temps éveillé. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? et qu'on veut ensemble. Voilà. L'écran est le moyen par lequel la personne vénère la technocratie et satisfait aux attentes de la société de consommation qui cherche à uniformiser les besoins et à intégrer parfaitement l'homme dans le système technicien. La finale de la citation est reprise à Jacques Ellul, qui est un des maîtres à penser sur la philosophie de la technique pour le pape Benoît XVI. Voilà. Alors, voyez, je finirai avec cette image. Cette image, on pense à Léonard de Vinci. Allez, je vais vous poser une question. Quel est le dernier docteur de l'Église? J'ai des catéchistes super bien formés ici. Alors là, ça va fuser les réponses. Tout le monde lève la main. Allez. Voilà. Hein? Allez. La dernière femme docteur de l'Église. Hildegarde de Mégen. Bravo. 20 sur 20, bravo. C'est bon. Vous avez votre diplôme. Voilà. Voilà. C'est elle qui a fait ce dessin. Bien sûr, elle l'a fait avant Léonard de Vinci. Mais elle l'a piqué à cet architecte milanais du 1er siècle avant Jésus-Christ qui a donné le cadre. Voyez, la crédibilité de la foi, c'est la croissance de la vie. Une vie christifiée, élargie, qui puise dans toutes les forces, qu'elles soient spirituelles, mais aussi cosmiques. La nature, retrouver la nature, l'intersubjectivité. Bien sûr, l'amour, la culture, la prière. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, dans l'attente de ce jeu postmoderne, la réponse chrétienne, c'est une réponse de personnalisation, de personnification. Voilà, à travers quelques points de repère évoqués, voilà, si vous voulez, j'ai mes livres au fond de l'église, vous voyez, pour tracer un chemin personnalisant. La personne, la question sociale aujourd'hui est une question anthropologique, disait Benoît XVI. Voilà. Donnons une réponse à cette question anthropologique en accompagnant les processus de croissance de chacun des personnes dont nous avons la responsabilité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.